Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Épisode 7, passer de la micro à la société, comment faire? Hello à toutes, je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur mon podcast Lawher pour un nouvel épisode. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Et on va parler d'un sujet aujourd'hui qui va intéresser un grand nombre d'entre vous. Ouais, parce que j'avais prévu de mon côté de vous parler des entreprises à impact, mais comme c'est des sujets que je traite en fait de plus en plus, donc ce qui est complètement normal avec ma spécialité donc en droit des sociétés, aujourd'hui je vais vous parler du passage de la micro-entreprise à la société. Donc évidemment, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises les raisons qui font que vous devriez penser à la société. Et si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à réécouter l'épisode 4 de la troisième saison pour que vous puissiez comprendre pourquoi la micro-entreprise, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et vous avez également l'épisode 1 de la deuxième saison pour vous aider à comprendre pourquoi il faut se mettre en société dès le début. Et je vous mettrai évidemment les liens des épisodes dans le descriptif de l'épisode. Alors, je sais pas pourquoi je ne vous avais jamais parlé de ce sujet, donc du passage de la micro à la société. Et je pense qu'en fait, c'était vraiment nécessaire que je le fasse. Et encore une fois, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à venir me voir en consultation sur le passage en société ou non, en fonction donc de votre situation. Mais avant, je voulais vous faire un petit récap pour expliquer pourquoi il peut être intéressant de passer en société, alors même que vous étiez en micro-entreprise, jusque-là. Alors, première raison, en revanche, vous n'avez pas le choix, c'est parce que vous allez bientôt dépasser le plafond de chiffre d'affaires imposé à la micro-entreprise. Et donc, bravo à vous, parce que ça veut dire que votre entreprise commence à bien marcher. Donc, je rappelle les plafonds. Donc, 188 700 euros si vous avez une activité commerciale. Donc, c'est quoi ? C'est acheter des biens pour les revendre, par exemple, ou 77 700 euros si vous avez une activité de prestation de service ou encore une activité en libéral. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on admet une tolérance donc en termes de changement donc par rapport à ce montant de chiffre d'affaires. Et en gros, vous n'avez pas besoin de passer en société si vous dépassez les seuils sur une première année. Mais si vous dépassez les seuils à compter de la deuxième année, le passage en société devient obligatoire. Donc, deuxième raison du passage donc de votre micro à la société, parce que vos charges d'exploitation deviennent importantes. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ça ? En fait, c'est souvent le cas quand vous commencez à dépenser beaucoup et beaucoup plus que l'abattement forfaitaire de charges que l'administration fiscale va appliquer à votre activité en micro-entreprise. C'est les fameux 34% du chiffre d'affaires qui sont appliqués forfaitairement par l'administration fiscale. Donc, si vous avez tendance à faire beaucoup d'investissements du type formation ou des achats de matériel ou encore faire pas mal de sous-traitance, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de passer en société. Si vous savez pas comment les calculer et tout, en fait, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et en fait, je vous aiderai à voir comment faire et si en fait, ça vaut le coup justement de passer de la micro à la société. Troisième raison, en fait, vous souhaitez mieux protéger votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. Donc, à nuancer quand même, parce que depuis la loi sur les indépendants de 2022, en fait, ce que la loi a créé, c'est un patrimoine professionnel pour les entrepreneurs individuels. Et lorsque vous êtes en micro, vous êtes des entrepreneurs individuels. Donc, même si aujourd'hui, les créanciers professionnels, donc les professionnels à qui vous devez de l'argent, en fait, ils peuvent plus venir saisir les biens qui se trouvent dans votre patrimoine personnel, typiquement, par exemple, votre livret A, il vaut toujours mieux créer une société pour mieux vous protéger. parce que si vous arrêtez votre activité, les créanciers professionnels pourront à nouveau se servir sur votre patrimoine personnel. Donc, quatrième raison, vous souhaitez vous associer parce que oui, en micro, malheureusement, hein, ce n'est pas possible. En fait, seule une société vous permet de le faire. Et c'est souvent un vrai sujet parce que moi, ce que je rencontre de plus en plus souvent, en fait, donc des freelances, des solos, qui sont en fait à leur compte, typiquement deux solopreneuses en fait qui vont bien s'entendre sur une mission, qui souhaiteraient s'associer et en fait elles se rendent compte que c'est pas du tout ok parce que légalement on ne peut pas le faire. Donc réfléchissez-y. En fait, le passage de la société, ça peut être aussi en fait un moment intéressant pour vous associer si vous avez trouvé la bonne personne. Donc voilà. Donc si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs de ces raisons, à mon sens, il est sans doute temps d'envisager le passage en société. Alors concrètement, comment on fait pour passer en société? Alors c'est là que les choses se gâtent un petit peu et ça commence à se complexifier. En fait, je vais essayer d'être la plus claire possible pour que vous puissiez comprendre comment faire pour passer en société. Alors tout d'abord, hein, ça c'est un gros warning. Quelque chose de super important. Moi, de mon côté, je vois souvent passer des articles ou des posts sur les réseaux sociaux qui vous expliquent qu'en gros, il suffit de fermer la micro pour ouvrir une entreprise en immatriculant une nouvelle société. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Donc évidemment, hein, de toute façon, vous avez bien compris, hein, si vous m'écoutez, c'est que vous savez que rien n'est jamais simple, notamment en droit fiscal, voilà, par rapport à l'administration, toute la paperasse en gros. Et en gros, si vous vous contentez de fermer votre micro pour ouvrir une entreprise en immatriculant une nouvelle société, en fait, c'est un peu comme si tout d'un coup, l'ensemble des créanciers, en fait, les personnes à qui vous devez de l'argent, faisaient leur compte sur ce que vous leur devez. Donc, en fait, donc qui va venir vous demander de l'argent? Donc, c'est les URSSAF ou encore les impôts. Par exemple, typiquement, si vous devez reverser de la TVA aux impôts, donc une simple fermeture de votre micro, en fait, aura pour conséquence, nous, ce qu'on appelle de liquider l'ensemble de vos créances. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous devrez rembourser l'ensemble des personnes, typiquement, encore une fois, les organismes sociaux, les URSSAF ou encore les impôts. Et en fait, fait encore plus grave. Hein. Ça, en revanche, peu de gens le disent, mais c'est vrai que vous allez aussi avoir une vraie problématique de continuité des contrats. C'est quoi cette problématique de continuité des contrats? C'est si, par exemple, vous aviez des contrats en cours avec votre micro, des contrats en cours, pardon, avec vos clients jusqu'à présent en micro. Si typiquement votre modèle économique fonctionne donc par système d'abonnement. En fait, les contrats sont techniquement et juridiquement résiliés parce que votre micro-entreprise n'existe plus. Donc, ce qui est quand même un peu embêtant si derrière, il peut arriver que vous ayez un contentieux avec ce client. Donc là, typiquement, vous pourrez avoir un souci pour justifier de votre facturation en cas de litige. Donc, dans l'idéal, vous devez choisir l'une des deux solutions que je vais vous exposer tout de suite. Première solution, effectuer un apport des éléments du patrimoine professionnel de votre micro-entreprise à votre nouvelle société. Alors moi, c'est une solution que j'aime pas mal, que j'aime même beaucoup en fait, parce qu'elle a pas mal d'avantages. En fait, ce qui est intéressant quand vous faites ça, c'est que quand vous décidez d'apporter des éléments de votre patrimoine professionnel, hein, c'est-à-dire en gros l'ensemble des éléments qui constituent votre activité entrepreneuriale, en fait, ça va vous amener forcément à vous interroger sur la valeur de votre fonds de commerce ou de votre fonds libéral, c'est-à-dire en gros votre activité. Et en fait, c'est plutôt un bon point souvent pour les entrepreneuses parce que il y a quelquefois cette idée comme quoi, bah en fait, il y a une problématique de création de valeur. Et moi, souvent les clients, quand je leur explique qu'il faut s'interroger sur la valeur de ce qu'elles créent quand il y a un passage de la micro à la société, en fait, souvent elles font des gros yeux parce que en fait, elles s'imaginent pas à un seul moment que ce qu'elles créent a de la valeur. Hein. Donc je sais pas si c'est dû à quoi, syndrome de l'imposteur ou pas. Mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous décidez d'apporter, il faut vous interroger sur la valeur de votre activité, donc de votre fonds de commerce ou encore de votre fonds libéral. Alors, parce que si votre activité marche bien, encore une fois, hein, alors que vous étiez en micro, vous créez forcément de la valeur. Et donc, cette opération d'apport, d'un point de vue technique, nécessite que vous vous interrogez sur cette valeur. Et comment ça se passe? Techniquement, c'est lorsque vous apportez ces éléments, donc fonds de commerce ou fonds libéral, voilà, en fait, le capital social de votre société sera d'autant plus augmenté. Et en fait, ça a l'air technique comme ça, hein, mais en fait, prenez n'importe quel en tête courrier de papier. En fait, vous regardez, par exemple, Carrefour, capital social de X millions d'euros. Et en fait, cette notion de capital social est hyper importante parce que comptablement, en fait, on va considérer que ça fait partie des fonds propres. Et ce que les gens, en fait, ne vous expliquent pas, c'est que quand vous avez des fonds propres d'un certain niveau, c'est super intéressant si vous souhaitez faire un prêt auprès d'une banque, par exemple. Et c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Et je le dis toujours parce que l'argent amène l'argent. Donc, si vous pouvez, suite à cet apport, effectuer un prêt parce que vous aurez un gros capital social, pourquoi pas ? En fait, ça vous permettra de faire grandir encore plus votre entreprise. D'un point de vue pratique, vous pouvez procéder à l'apport des éléments de votre micro avant les créations, donc avant l'immatriculation de la société. Et n'oubliez pas, donc ça c'est la partie, on va dire, technique, il faudra faire appel à un commissaire aux apports qui pour qu'il juge de la valeur des éléments. Donc, en fait, il y a un vrai sujet, on va dire, donc de bilan coût-avantage de ce que vous pouvez faire. Parce qu'évidemment, quand vous faites cette opération, ça nécessite un certain coût. Mais si vous le faites, vous apportez, et puis voilà, avec l'intervention à la fois d'un avocat et puis d'un commissaire aux apports, ça vous permet, on va dire, d'upgrader l'image financière de votre entreprise, de votre activité, qui derrière, en fait, vous permettra d'obtenir un prêt. On va dire que tout ça constitue plutôt en réalité des investissements. Donc, je vous encourage en fait à réfléchir vraiment si aujourd'hui vous ne vous retrouvez pas dans cette situation. Donc, autre solution, donc à côté de l'apport, donc c'est céder les éléments de votre patrimoine professionnel qui se retrouve en fait dans votre micro-entreprise à une nouvelle société. Et là, c'est ce que je vais répéter tout le temps en fait. Nous, en droit des sociétés, ce qu'il faut savoir, c'est que céder, ce n'est pas apporté, donc qui était la première solution présentée. Donc, pour cette deuxième option donc de cession, le schéma est légèrement différent parce que quand vous cédez, vous vendez les éléments qui se trouvent dans votre micro-entreprise à votre nouvelle société. Et vous allez mettre donc en face un prix. Ce qui veut dire que les choses en fait se passeront de cette manière. Vous créez d'abord une nouvelle société. Et la société vous paiera un prix qui correspondra à la valeur de votre micro-entreprise, donc fonds de commerce ou fonds libéral ou peu importe, en fonction des éléments en fait que vous allez céder. Et vous allez me dire tout de suite, mais comment on fait si la société n'a pas de sous pour vous acheter cette activité, donc le fonds de commerce ou le fonds libéral de votre micro-entreprise ? Et souvent, le montage peut être effectué de cette façon. Donc la société que vous allez créer, qui sera toute neuve, en fait, elle va solliciter un prêt bancaire auprès d'une banque et la société, elle va s'endetter pour pouvoir acheter les éléments de la micro-entreprise. Ce qui veut dire que suite à la cession, donc une fois que vous aurez cédé les éléments de la micro, vous aurez entre vos mains le prix correspondant à la valeur donc de votre micro-entreprise. Donc, évidemment, je tempère un peu, même si c'est hyper intéressant d'avoir un prix de cession parce que forcément, il va y avoir des conséquences fiscales à prendre en compte. Mais ça peut être super intéressant, évidemment, parce que vous retrouvez tout de suite avec le cash qui correspond à la valeur de ce que vous avez pu créer ces 2-3 dernières années pendant laquelle est-ce que vous avez été en micro. Donc, c'est plutôt sympa parce que ça peut constituer, en fait, donc de manière assez maternelle, hein, de manière assez pragmatique, une première récompense du fruit de votre travail depuis la création de votre micro. Alors, effectivement, c'est un peu compliqué, donc tous ces différents sujets, hein, mais voilà, moi, mon conseil, évidemment, hein, quelle que soit l'option que vous choisirez, c'est que vous ne pourrez pas faire l'économie de vous faire accompagner par des professionnels du droit et du chiffre. Le professionnel du chiffre, évidemment, sera là pour mettre une valeur sur votre micro-entreprise, donc du fonds de commerce ou bien du fonds libéral que vous apporterez, ou bien que vous céderez. Parce qu'évidemment, comme vous n'aviez jamais eu d'obligation comptable, vous ne pouvez pas savoir à hauteur de combien vaut votre micro-entreprise. Le professionnel du droit, donc typiquement moi, l'avocate, En fait, je serai là pour vous aider à déterminer s'il vaut mieux que vous apportiez ou si vous devez céder. En fait, je serai également là pour vous aider à choisir la forme sociale qui vous conviendra le mieux pour votre future entreprise. Parce que désormais, évidemment, vous exercerez votre activité ou bien en SASU ou encore en EURL. Donc, voilà. Faites-vous accompagner également pour immatriculer votre société parce que il y a des contraintes légales, sociales et fiscales qui peuvent être importantes. Donc, en résumé, n'oubliez pas de vous faire aider, notamment sur ces opérations un peu complexes, c'est-à-dire le passage de la micro à la société. Et surtout, si vous hésitez encore une fois à passer en société, rien ne vaut une consultation pour faire le point sur la nécessité de passer en société ou non. Je vous mettrai dans le descriptif de l'épisode, de toute façon, un lien pour prendre rendez-vous justement sur cette typologie de consultation. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode de l'horreur. En attendant, très bonne semaine à toutes et à tous. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt !